Bienvenue YouTube pour cette retransmission. Pour ceux qui ont vu l'intégralité du live, vous savez pourquoi on se marre. On vient de finir une magnifique et longue draft à 5h33 du matin. Et on s'est dit que plutôt que de revenir demain dans la chaleur parisienne, on va essayer de vous débriefer ça à chaud, les gagnants et les perdants de cette belle draft. Merci de suivre cette vidéo. Merci à ceux qui ont fait tout le replay du live pour être encore là. Et avant de se lancer comme ça sur ces gagnants et ces perdants, je vais vous remontrer rapidement le tableau récap complet de cette draft avec à l'instant Dallas qui vient de récupérer Sergio de la Rea à la place des Knicks. Les Knicks qui ont ensuite tradé Coapit aux Phoenix Suns. Une belle draft, c'était un plaisir de suivre avec vous. Comment ça va,
pas
Alex? Comment ça va, Bastien?
Pas trop de surprise. Au début, ça a enchaîné des pics. On va revenir dessus dans l'ordre un peu prévu.
Très fidèle à la mock jusqu'au 8.
Ouais.
Enfin, au mock.
Sans trop de surprise. Après, ouais. Dallas a commencé à nourrir Maurice Johnson. Ouais. Et après, derrière, on a des joueurs qui ont glissé beaucoup. On commence par les gagnants ou on commence par les perdants?
Comme vous voulez.
Moi, je dirais plutôt les perdants. Amusons-nous
d'entrée. Simon, ce serait qui tes perdants, toi?
Je vais nous remettre.
Peut-être t'as une équipe perdante ou un joueur perdant. Ce serait quoi ton?
Cameron Carr, c'est un peu le mec qui a glissé, dont on se rappellera. Même
Fallon, mais il finit aux Lakers quand même.
Et la Baron Filon aussi, en tant que joueur. Mais les deux finissent dans des situations pas mal. Lakers et Sixers, respectivement.
Ouais.
Donc.
T'aurais qui?
On s'est moqué des Grizzlies, mais bon, ils ont drafté Boozer parce qu'ils ont fait cet échange-là un peu facile avec OKC pour Stirt.
Qui c'est qui pourrait être un perdant là-dedans?
En termes de joueurs?
Joueur ou équipe ou qu'est-ce que...
Moi, je peux lancer sur du coup, le premier doute qu'on a eu. On a eu un top 8 très logique. Et forcément, j'ai été très intéressé, je le disais pendant le live, par la draft de Dallas. Ouais. En place numéro 9 notamment, on a vu l'arrivée de Masai Ujiri, l'arrivée de Mike Schmidt, l'ancien consultant d'ESPN. Mmh. Donc des nouvelles têtes pour faire ses décisions. Et au final, le vrai décisionnaire, j'ai l'impression, de cette première draft, c'est le nouveau coach, c'est Dusty May, l'ancien coach de Michigan, qui a récupéré son chouchou, Maurice Johnson Jr., qui n'était pas attendu là, plutôt vers les postes 14, enfin vers les places 14-15, et même en prenant quelqu'un de Michigan, c'était pas forcément le profil le plus attendu.
Tout à fait.
Tu récupères un poste 4-5 qui est super intéressant, un super défenseur, capable de switch,
etc.
Mais c'est vrai que tu avais encore potentiellement du Braden Burris qui était encore présent à ce moment-là. Tu drafts sur un poste où tu as déjà un Cooper Flag, même s'ils peuvent complètement jouer à côté. C'est le premier doute qu'on a eu dans cette draft.
Après, il récupère De La Rea en 25 en meneur.
Ouais.
Ce qui compense un peu le côté rich. Parce que sinon, ils ont mamaillé, donc on l'a vu avec les Suns, avec les Knicks et tout, pour prendre quand même un meneur. Là où je te rejoins, c'est que tu aurais pu peut-être, si tu avais un choix vraiment assuré de Maurice Johnson, être un peu plus tactique. Et essayer, notamment avec Milwaukee qui avait deux picks et tout, de voir dans un trade down si tu peux pas récupérer. Bon, même si c'était qu'un second round et tout, mais et avoir Maurice Johnson un peu plus bas. En 9, c'est un peu un reach. De là à les mettre perdant, c'est difficile à dire. Là, on est vraiment en sortie de draft. Mais c'est vrai que sur la stratégie, c'est peut-être pas le mieux joué. Après, par contre, il y a un choix vraiment assumé. Et nouveau coach qui prend un peu son chouchou de Michigan.
Ouais.
Ça, c'est pas mal quand même, quoi. Tu vois, le côté, il arrive avec tout de suite un joueur qui va sur lequel il connaît, quoi.
Oui, ça, c'est clair.
Direction.
Mais c'est vrai qu'on peut être surpris du reach quand même, j'avoue.
Est-ce que Alex, t'as un perdant en tête?
Ouais, là j'étais en train de checker. Je trouve quand même que Alan Graves, qui se retrouve, donc c'est un ailier plutôt costaud, plutôt athlétique, qui sait faire pas mal de choses sur un terrain, notamment a priori shooter à 3 points. Donc moi je peux comprendre que les Raptors aient eu envie de l'ajouter. Juste dans la rotation, si elle reste un peu telle qu'elle est là aujourd'hui des Raptors, il y a moyen que Allen Graves, ça soit pas tellement gagnant pour lui, le joueur.
Bah on a rigolé.
Parce que, tu vois, moi j'ai fait la vanne, ouais, un ailier un peu athlétique et tout. Bon, ok, là il se trouve que le mec shoot un peu à 3 points, donc on va voir ce que ça, dans du spacing, ça peut pas leur faire du mal aux Raptors. Mais enfin, entre Colin Murray Bowles, qui est un petit 5, un poste 4, petit 5. le patron de l'équipe, Scotty Barnes, qui est clairement un 3-4. Ouais. Ensuite, tu as Brandon Ingram, on va voir ce qu'il fait.
3, ouais.
Ensuite, RJ Barrett, c'est un 2-3. Donc tout ça, ça pousse. Puttle n'est pas encore tradé. Donc, pour Allen Graves, un joueur que je pense est intéressant, je le mettrais bien dans la catégorie. Genre, ça veut pas dire qu'il va pas faire de carrière NBA, mm-hmm. mais le début de la carrière, il y a moyen qu'il soit 9e homme, quoi.
Va falloir se battre
au Raptors,
pour faire sa place, ouais, c'est clair.
Genre, ça se trouve, la première partie de saison, le mec, on va être là, genre, bon, bah, en cumulé, il a joué 53 minutes en 30 matchs. Enfin, non, j'exagère un peu, mais
c'est possible.
Genre, c'est compliqué, surtout que les Raptors vont quand même être ambitieux. Les mecs viennent de faire 5e. Ils viennent de faire 5e de l'Est. Oui, genre, ils vont débarquer dans la saison prochaine. Ils sont pas là pour développer des rookies. Je te dis pas que ils vont pas le faire, mais ils sont là aussi pour enchaîner et essayer de gagner les matchs. Donc, je suis un peu déçu pour ce joueur-là. Je pense que c'est pas une super affaire qu'il a fait.
Simon, t'as un autre soit joueur, soit une équipe qui te laisse perplexe sur le papier ?
Non, moi, écoute, je suis quand même assez...
T'es content pour tout le monde, toi, Simon ?
Non, les Bucks, c'est pas des perdants. La stratégie, elle est bonne, et ça, on l'a dit, elle complète en plus le trade de Giannis. Ils ont plein de jeunes, tout ça et tout. Mais, et c'est aussi vu comment ils sont placés à la draft, entre le choix 10 et le choix 13, donc je rappelle, ils prennent Nate Emmond qu'on attendait.
Ils ont Brayden Burris.
Ils ont Brayden Burris qui a glissé. Donc, ils sont gagnants d'un côté sur Brandon Bates qui a glissé sans doute et tout, mais peut-être que du coup, c'est pas qu'ils sont perdants, mais qu'on les verra comme ah bah c'est contre, vous êtes accroché comme ça à Nate Emmond et de l'avoir pris quand même en 13, alors qu'à ce moment-là, je les ai plus exactement en tête, mais il y avait quand même encore des sacrés joueurs disponibles et que les Bucks auraient pu être les méga gagnants. C'est-à-dire, attends, je dis pas de bêtises, mais qui est pris
Ernest Steinbach en 14,
ouais.
Dalen Swain en 15.
Ils auraient pu être les méga gagnants, c'est-à-dire s'ils n'avaient pas pris Nate Emmond.
Bah, en fait, il y a un monde où ils sortent avec donc Brandon Berries en 10, parce que l'opportunité de Dallas qui va.
Ouais.
Et ils ont, bon après, c'est pas, mais ils ont. Je sais pas lequel exactement, mais ils ont dans ce reach de juste en dessous de Nate Emmond.
Ils ont tenté le potentiel de Nate Emmond.
Ouais, peut-être qu'il fallait assurer avec Stenbar, avec des gens comme ça. Et là, tu te dis, ah ouais, quand même, les Bucks, non seulement ils font le trade de Giannis, ils prennent plein de jeunes. Et en fait, deux valeurs sûres là, qui arrivent à leur poste dans cette draft, Burris et par exemple Stenbar. Et tu te dis, ok, gros gagnant. Mm-hmm. Alors que là, je suis pas sûr qu'on mette les Bucks dans gagnant de la draft.
Non, je comprends.
Après, tu l'as bien dit stratégiquement. Il semblerait que c'était Nate Emmond le joueur qui voulait en 10. Tu arrives à le récupérer en 13 en ayant des très gros potentiels de la draft en 10. Moi,
c'est pour ça qu'ils sont gagnants en quelque part. Ils ont pris Burris et le joueur qui voulait. Voilà.
Ouais, ouais.
Mais ils auraient pu être des méga gagnants si ça se trouve en lâchant Nate Emmond et en disant on lit mieux la draft.
Je comprends, Robin, t'as quelque chose pour nous ?
Ouais, bon, pareil, c'est pas des immenses perdants, notamment
de toute façon,
parce
on
que.
On est en train de débriefer un truc qui s'est passé à 10 minutes. Hein, donc,
parce que le pick 8 était attendu comme ça, mais Atlanta, je vais rester sur ce que je dis depuis quelques temps.
Ouais.
Kingston Fleming, c'était logique de le prendre, et comme je sais, j'aime bien le profil, mais moi, c'est pas du tout le meneur en qui j'ai le plus confiance de cette liste. Bastien sera en fort désaccord avec moi, et c'est très bien ainsi. Mais du coup, c'est surtout en plus sur le deuxième choix que je comprends pas trop, Zubi et Eliofort, qui est un joueur que je connaissais assez peu.
Ah, puis il monte, hein, il faille le reach. Hein.
Ouais, c'est un
profil
grand 4.
Colle, hein.
Le profil colle, mais c'est vrai que quand t'avais encore des Cameron Carr qui étaient juste derrière, Chris Senak ou moi, Henri Vessard qui a pas du tout été choisi, si tu voulais un poste 5.
Mais on a dit qu'Henri Vessard ça collait pas pour les Hawks.
Ouais, oui, je sais, mais le profil de Zubi, je le connais pas très bien, mais comme Kingston Fleming, c'est pas du tout le joueur qui me, dans le top 10, qui m'inspire le plus confiance, et qu'en plus Zubi était pas du tout attendu là, ça me fait deux choix avec lesquels je suis pas forcément dans un accord complet, et du coup je peux pas les mettre dans les gagnants en tout cas, quoi.
Bah, tu vois, je reviens parce qu'il est primable. Les Bucks par exemple, je reviens à mon égard, auraient pu faire Burris et Cameron Carr par exemple.
Ouais.
Et pas, alors Cameron Carr pourtant il a glissé jusqu'au bas, mais ils auraient pris en 13 Cameron Carr, tout le monde aurait dit très bien, et ils s'en sortent avec deux vraies grosses valeurs sûres. Voilà, c'était. Et pour répondre, moi j'avais un autre truc, mais je l'ai vu aussi dans le chat et je suis assez d'accord. Je suis un peu mitigé par l'effort qu'ont fait les Pistons pour aller chercher un joueur jusqu'en 17 qui, à mon avis, ou en tout cas des mocks que j'ai vus, aurait été dispo sans qu'il bouge. C'était 21, je crois, les Pistons.
Surtout le profil, moi. Désolé.
Ouais.
Hein.
Je sais pas si
ouais,
joueur,
et voilà,
en fait, moi,
et
j'ai
vu
pas
les
de
autres joueurs dispo en 17, c'est peut-être pas lui que j'aurais pris.
J'ai pas de problème avec le talent du mec.
Ouais, mais le
juste le profil, ouais. Je suis un peu sceptique. Il y avait d'autres gars disponibles, si, quitte à Rich, enfin quitte à monter. Il y avait d'autres gars disponibles que Okori, que les Pistons.
Un mec comme Greaves, par exemple, par son profil de connecteur sur un poste 4.
Par exemple.
Il était dispo, on est d'accord, hein, c'est après.
Oui.
Moi, j'aurais monté en 17 pour avoir d'autres chemins de passe autour de Cade. Parce que c'est le problème des Pistons. ils ont pas de création à côté de Kate, mais en fait ils ont pas de connecteur non plus. Tu vois, Tobias Harris c'est pas un connecteur, etc. J'aurais plus été intéressé par ça. Ouais,
il y avait Carr.
Moi, Griff, tu as un poste 4 connecteur avec, je sais pas.
En fait, je comprends et je suis parfaitement d'accord avec toi. Simplement, je pense que du coup, s'ils ont payé aussi cher aussi rapidement, c'est qu'en 18, tu vois les Hornets qui prennent Christian Anderson, donc un autre meneur juste derrière. À mon avis, peut-être que ça passait pas Charlotte et que ça tu retombais pas en 21. Parce que lâcher 3 second tour de draft, c'était peut-être ça l'objectif. Oui. Mais c'est après, vrai. C'est vrai qu'en termes de pur profil, Okori est un autre slasher. Très fort, très talentueux offensivement, mais slasher est pas forcément pour l'instant le meilleur shooter, le plus adroit, l'organisateur le plus sûr, même s'il y a encore des, il y a des flashs. C'est vrai que c'est pas ce qu'on attendait forcément aux Pistons.
J'en ai un petit dernier si vous voulez.
Ouais, bah bien sûr. Ouais.
Je pense qu'il y a un jeune joueur de talent au Jazz qui est le perdant ce soir. Je sais pas encore lequel. Mais t'es Keyonte George et Ace Bailey.
Pas forcément celui drafté cette année, mais dans
pas
tous
forcément,
les.
Pas forcément, mais ça
les...
peut être Peterson.
Ça peut être Peterson.
Ça peut être lui, malheureusement.
Oui, c'est bien vu. Il y a, tu vois, le, je vois.
Disons la... que Keyonte George a vraiment fait une très très belle breakout season la saison dernière où il s'est mis à scorer beaucoup, à avoir le ballon dans un poste clairement plus de 2 qu'à le ballon, mais de pas de vrai meneur, on va dire. Qui est le poste de Peterson? Grosso modo, le rôle
c'est
et le poste.
Qu'il se prend Peterson dans les
le
pattes,
rôle
là.
Et le poste. Et tu as Ace Bailey qui est un haut choix de draft de la saison d'avant, qui est lui aussi un mec qui va être quand même bon, un très bon joueur off-ball, hein, mais qui est un joueur qui a besoin de scorer. Ça serait bien de lui filer la balle et tout. Donc je dis pas que c'est pas possible. Je dis que aucun de ces trois mecs-là n'est un vrai meneur. Donc ils vont avoir besoin, je pense, à moins que Will Hardy nous trouve la solution incroyable et arrive à faire jouer un backcourt Keyonte George Peterson avec Ace Bailey dans l'aile. On lui souhaite, mais ça va pas être facile. En mode run TMC, hein. Sauf que le run TMC, ils avaient un vrai meneur. Donc je me demande s'il n'y a pas un de ces trois mecs-là de talent qui ne va pas pâtir de cette situation-là dès cette saison. Soit le rookie, j'en doute, parce qu'il est fort. Mais un Keyonte George qui vient de te faire une breakout season et en fait du jour au lendemain, putain le rookie il est trop fort, faut le faire jouer. Keyonte c'est pas vraiment un meneur, tu sais, limite.
Genre, en fait c'est pas compatible et il est
genre,
hors de question.
Keyonte,
que
merci, mais tiens, tu vas être super en 6ème homme.
Ouais. Oui, ou voir tu dégages parce qu'en fait.
Ou t'as une grosse valeur. Donc je verrais bien un petit perdant là-bas, moi, à Utah.
C'est possible. Est-ce que t'en as un dernier ou est-ce qu'on passe sur les gagnants, Simon?
À mon sens, on peut passer aux gagnants.
Alors,
passons sur les gagnants. Est-ce que t'as quelque chose qui te saute aux yeux?
Ouvre le bal.
Pendant la draft, on était tous les trois assez d'accord pour dire qu'on a bien aimé la draft des Hornets.
Ouais.
Une de ces équipes qui avait deux choix, et donc évidemment, c'est plus facile d'être dans la catégorie gagnant quand t'as deux choix. Mais ils les ont bien exploités. Ils ont pris donc deux Allemands. Ouais. C'est marrant, hein. Mais et deux joueurs qui vont très bien dans ce qui. Enfin, on a tout de suite imaginé Charles Lee, le fit, la manière de jouer, la philosophie, même je dirais des Hornets.
Ils ne sont pas posés de questions. À la défense, on s'en bat les noix.
Ouais, mais
du shoot, du shoot et
voilà,
du shoot.
Et de l'intelligence de jeu.
Oui.
En fait, j'ai presque moi plus aimé le plaisir du spectateur que la logique pure.
Oui,
je ne sais pas si c'était
les
plus gros besoins, notamment en termes de meneur. Christian Anderson, c'est pas le profil que j'aurais été chercher, même si je l'adore.
Ouais, moi,
mais par
bien,
contre, se poser devant les Hornets avec ces deux joueurs-là, en plus de tous ceux qu'on a déjà, ça va être un régal.
Ouais, j'aime bien.
Mais pardon, je t'en prie.
Non, bah c'était ça. Et autre, avant que je vous passe la main, moi, je trouve quand même que. Alors, Michael Brown en 6, moi, peut-être même encore plus qu'à Keuf, ils l'ont pris les Nets. Je pense que c'est le bon choix pour eux. Et je pense que ce mec peut être vraiment une superstar NBA.
Ouais.
Vraiment, je pense même avec qu'il peut être. S'il n'y avait pas ces problèmes de dos, je pense qu'on aurait parlé d'un top 5 dans cette draft. Vraiment.
Oui.
Il a un talent de ouf, quoi. Et ce qu'on voit. Et en chopant, on est d'accord qu'il chope bien Joshua Jefferson en 28.
Oui, exactement.
Ouais,
qui
ça.
Était quand même annoncé voix un peu plus haut et tout, qui colle.
Ouais.
Les Nets font une draft quand même qui consolide pas mal là d'un coup leur projet. Alors on verra avec le trade de Randle et tout. Et vous savez, moi j'aime bien les Nets, mais je voulais quand même en placer une parce que je trouve que c'était sur le papier ce qu'ils devaient faire, mais s'en sortir avec quand t'as un choix 6-28 et dire bah moi je reparte là avec un talent comme Michael Brown et un deuxième gars comme Joshua Jefferson. T'as fait le taf. Hein.
Et puis tu le disais très justement, cette philosophie des Nets, à vouloir avoir des gars capables de poser des dribbles et de passer sur chaque poste, Joshua Jefferson, t'es complètement là-dedans, ça fait sens.
Très cohérent et tout. Donc voilà. Et toi, Robin?
Moi, je vais aller sur les très énervants. Le très énervant Oklahoma City Thunder. On est obligé. Incroyable. Déjà, c'est très intriguant. Encore plus que d'être une réussite pure à l'instant T, même si t'as l'impression qu'avec leur capacité de développer des jeunes joueurs, ça va aller tout droit. Mais. Adaimara, qui était parfois attendu encore un peu plus haut. tu le prends en 12, tu sais que Isaiah Hartenstein, il y a des chances de départ. C'est un joueur qui a fait gagner Michigan dès cette saison, qui a déjà un talent à la passe.
Ouais, peut-être déjà le remplaçant d'Hartenstein.
À la protection de cercle, c'est quelqu'un. Tu sais que tu peux pas trop le faire jouer 30 minutes pour l'instant, mais pour 20 minutes, pour faire reposer Chet Holmgren, ça paraît assez parfait. Et on l'a dit avec Alex, on a un chouchou commun, c'est Bennett Sturt, que tu as été chercher en lâchant. T'es monté en fait d'un pic, mais pour aller. T'as lâché deux second tours de draft. Parce que t'avais peur qu'ils partent forcément.
Et puis parce que t'en as 10 000.
C'est ça. Et t'as un meneur de jeu qui est déjà NBA ready complètement. Très endurant, très bon passeur, très bon shooter. Qui a assez peu de défauts. Peut-être que défensivement, c'est pas toujours parfait, même s'il se bat. Peut-être qu'athlétiquement, c'est pas parfait, mais il y a le cerveau, ce qui est le plus important pour le Thunder. Et vraiment, bah, pareil, c'est pas du tout le profil de Dort, on le disait, mais si jamais tu dois lâcher des gens, là, tu commences à avoir une base arrière qui est tellement profonde déjà avec McCain, avec Caruso qui est toujours là, Shea évidemment, Kayson Wallace. Et c'est un profil qui sont pas forcément complètement et qui va pouvoir faire beaucoup de bien, surtout si Nikola Topic. Malheureusement, on le sait, avec tous ses problèmes de santé, il n'arrive pas forcément à s'imposer en NBA. C'est assez parfait.
C'est bien, Sturt. C'est bien.
Et le Thunder, donc, le Thunder qui sort, qui aurait pu faire le back-to-back si ça se trouve, qui sort d'une finale de conf, qui était champion l'année d'avant, et qui en gros, l'année prochaine, débarque avec Topic, Sorber, Mara et Sturt en développement.
Ouais, c'est super.
C'est pas quatre témoins, comment dire,
intéressant.
C'est moins intéressant à développer dans tous les jeunes talents de cette ligue. Hein. Faut se leur dire quand même, les mecs sortent d'une finale de conf et ont donc Topic, Sorber, Sturt et Mara à développer.
Ah ouais, non, mais ils ont des jeunes joueurs dans tous les coins, c'est écœurant.
Voilà, voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui t'a écœuré, mais positivement?
Moi, je suis content. Je pense que Lendeborg fait partie des gagnants de cette draft, le joueur. Pour lui, de tomber aux Warriors, on en a parlé au moment du pic. Là, j'étais d'accord avec toi, Simon. C'est un rookie pas tout jeune. Je pense que c'est le plus vieux là des mecs du premier tour.
23 ans.
Ah ouais, presque 24. Ouais. Enfin, on approche gentiment des 24. Il arrive dans une équipe des Warriors. Qui, ok, accueille un rookie dans une équipe encore ambitieuse avec des vieux briscards qui ont envie de faire un dernier run sympa. Mais il a les qualités pour leur apporter quelque chose tout de suite. Et pour lui, t'es rookie, mais t'es un rookie qui a déjà de l'expérience. Tu débarques et ton expérience en NBA, ça va être la fin pour des Steph Curry, des Draymond Green, mais ils ont encore la dalle et tu vas te retrouver à l'entraînement avec ces mecs là c'est-à-dire que tu vas bosser le shoot avec Steph Curry et la défense avec Draymond Green. T'es Yaxel Lendeborg, c'est que son plafond, il peut peut-être l'exploser en fait. Le mec va apporter ses qualités athlétiques et ses capacités au rebond. Je pense qu'il va être kiffé par les coéquipiers. Ça peut cliquer. Je dis pas que le gars va révolutionner les Warriors. Juste, je pense que lui, le joueur, il fait partie des gagnants. Terminer en 11e à Golden State, c'est vraiment cool pour démarrer sa carrière vu son profil.
Je le tournerai encore plus simple. Je pense que si lui, on lui avait demandé, tu veux aller où ?
Ouais, il y a moyen qu'il te réponde les Warriors.
Voilà, et sinon c'était OKC, quoi, tu vois.
Et en plus, ouais, on l'a dit, c'est un mec qui était capable de tourner à 47% dans les corners en NCAA. Donc là, avec les Warriors, c'est génial.
Et puis, il y a quoi pour lui piquer son temps de jeu ? Il y a personne, il va jouer, non ?
Ouais, enfin,
il
n'y
a pas personne, mais il va jouer.
Non, non, mais il va être dans les 8-9 tout de suite.
Ouais.
Et tu parlais de choisir son équipe. C'est un gars qui a pris un petit pay cut pour aller à Michigan plutôt qu'à Kentucky, qui lui offrait plus de millions. Et au final, la Warriors, bah, si tu lui demandais de choisir, en effet, on serait dans le même genre. Et à Michigan, ça se transformait en un titre. On sait que les Warriors sont sur une ultime dernière danse. Ça va être intéressant à suivre. T'as quelqu'un d'autre en tête ou une autre franchise?
Je pense, mais il y a plusieurs équipes qui doivent se considérer comme gagnantes. Après, est-ce qu'elles le sont et tout, je sais pas. Parce que la draft, c'est entre guillemets, on l'a dit plusieurs fois, moi je trouve que c'est ce que j'entends de ça. C'est très bien goupillé pour tout le monde. Et là, notamment, je pense notamment, je te pique peut-être un peu l'absolu, mais notamment les Bulls. Notamment des clubs. On savait que t'avais rien à faire et tu prenais entre guillemets le meilleur des quatre, etc.
Le celui qui restait, quoi. T'es
voilà,
quatrième,
tu l'as fait, t'as pris Caleb Hinson, t'as ton deuxième choix en 15, t'as verrouillé de nouveau un deuxième bon choix, etc. Ça reste. Tu peux te. Comment dire, toi, tu trouves que c'est travail accompli ou c'est gagnant pour les Bulls? Je te le tournerais comme ça.
Le 4, t'as fait ce qu'il fallait faire.
Oui,
tant
t'as
mieux.
Pas fait d'erreur.
Et dans le 15, même si moi, c'est pas le profil qui m'intéressait le plus à la base, on l'a dit
Swain,
plusieurs fois pendant le live.
Philosophie.
Slap. Pour ceux qui n'ont pas vu le live, globalement.
Tu vois, je parlais juste des Bulls pour ça, pour qu'on redise un slap.
Des mecs longs, mobiles qui défendent.
Exactement, on est là-dedans. Avec un très bon talent.
Donc toi, tu es entre travail accompli quand même. Parce que moi, ce que je trouve bien pour les Bulls, et c'est pour ça que je les mets quand même presque. Il y a vraiment, pour les fans des Bulls, mais même pour tout le monde, les observateurs et tout le NBA, il y a un peu la pierre de l'an 1. du nouveau management. Avec, ok, c'était la draft de, en plus, c'est net quoi, c'était la draft de Caleb Wilson et Swain. Et ok, on a changé de régime, on a Thiago Splitter, on a mal. J'aime bien ce côté, il y a un cap clair. Il y a une direction pour les Bulls. Je sais pas si c'est pour autant des gagnants, mais dans cette idée de quand tu changes de staff, et on, t'es bien placé pour savoir que se foutait de la gueule des Bulls, du ventre mou, les Kings, oui, de l'Ouest, enfin, les Kings de l'Est, pardon. On est un peu dans le même navire avec ça. Et là, je trouve que les Bulls en deux semaines, là, mais surtout même et dans la draft, ont validé ce truc-là. Genre, ok, nous, c'est fini les conneries. On n'est pas Carni Sauvas, on n'est pas le staff d'avant. On sait ce qu'on fait.
Ça renforce l'envie de savoir ce qu'ils vont faire cet été. Ouais. C'est notamment clair. Sur les postes arrière qui n'ont pas forcément été comblés. Enfin, il y en a que tu peux prolonger. Tu vas te demander ouais, lesquels restent.
Il va y avoir un petit move là.
Claxton qui est arrivé, on l'a dit, c'est intéressant.
Oui, il y a l'arrivée de Claxton, etc. Voilà.
J'ai du mal à le juger, le Swain, et on verra. Je fais confiance pour le moment.
Non, mais j'aime bien stratégiquement, j'aime bien ce qu'ont fait les Bulls pour dire on tourne la page. Et vous voyez, c'est pas de la com, quoi. On a vraiment tourné la page, on a fait des choix qui montrent vers où on va et slap, quoi.
Très bien, slapons. Moi, j'ai un petit package de joueurs qui ont vécu une soirée compliquée, mais qui, pour moi, ont trouvé une fin heureuse. Avec LeBron Philon Jr. et ouais. Cameron Carr.
C'est les Lakers les gagnants avec Cameron Carr.
Clairement, j'aurais pu dire les Lakers.
C'est peut-être eux.
C'est ça, qui ont fait un petit move pour passer de 25 à 24 avec les Knicks pour se l'assurer. Mais oui.
Un bon joueur. Hein.
Un peu le style de la draft, ça sans doute.
Ça se trouve. Ouais.
Je fais dans l'ordre, mais LeBron Philon Jr., ouais, c'est un meneur qui, on l'a dit, a vraiment des qualités offensives certaines, a réussi entre sa saison freshman et sophomore à complètement changer de visage et qui arrive à Philly derrière deux très forts sur le poste, évidemment, VJ Combe et Tyrese Maxey. Ouais. Mais comme tu le disais, avec le départ de Jared McCain, t'as vraiment une place sur le banc de touche qui s'est ouverte.
En rotation.
Et côté Sixers, t'obtiens un joueur qui ressemble un petit peu à tes titulaires, où tu pourras toujours garder la même identité sur le parquet, quelqu'un qui a du talent offensif et qui pourra l'exprimer, qui aura la balle dans les mains pour le faire, pour aussi servir des Joel Embiid. C'est quand même plus facile aussi quand t'es meneur de jeu. Et un peu plus loin, Cameron Carr, en effet, un très bon shooter qui était notamment dans les meilleurs à la dernière draft combine, qui on pensait avait fait un peu monter sa côte. Au final, pas tant, il est tombé jusqu'en 24. Mais t'arrives dans l'équipe de Luka Doncic qui a demandé des shooters sur les ailes, un pivot dominant.
Ah bah là.
T'as un shooter sur les ailes, ça se trouve dès ton année 1, t'es un joueur qui joue 20 minutes de moyenne à Los Angeles pour quelqu'un pris à la fin d'un premier tour, c'est intéressant.
Ok.
Est-ce que on considère que les Spurs font partie des gagnants de cette draft, dans le sens où les mecs sont partis avec un seul choix et finalement ils en ont deux.
Ouais.
Dans le sens où ils ont pris un risque, un pari slash risque slash potentiel gros reward avec Jaden Quentin.
Ouais.
Et en même temps, avec Tyrese Reed, ils se prennent un vrai pivot.
Un peu plus safe entre guillemets, mais
qui peut remplacer Cornette sur le banc derrière Wemby, pendant qu'on verra si Jaden Quinton, il y a des cas où c'est le meilleur défenseur de la draft. Il y a des cas, ça existe. Le meilleur défenseur de la draft à côté de Wemby, j'ai pas besoin de faire des dessins, mais il y a des cas aussi où le mec il est trop blessé et ça donne jamais rien, il arrive pas à jouer. Le risque est réel, mais je me demande si je mets pas les Spurs dans les gagnants quand même, moi.
Ouais, c'est gagnant, intriguant, en tout cas.
Alors après, cette notion de gagnant-perdant est assez binaire.
De toute façon, on la jugera dans 5-6 ans. Hein,
oui,
ça,
non,
c'est
sûr. Mais là, tout de suite, à la sortie de la draft, t'es, en tout cas, la réputation des Spurs est toujours d'être très intelligent, de faire ce qu'il faut faire, d'avoir même un coup d'avance, etc. C'est pas avec la draft-là qu'ils contredisent leur réputation.
Si ça se passe bien, ouais.
Il y avait vraiment, on l'a compris assez vite, genre, ok, on voit très bien, on vous voit, San Antonio, on voit ce que vous voulez faire, on voit pourquoi vous allez prendre deux picks avec un pari qui est peut-être le gros pari. En tout cas, c'était celui qui était retenu, annoncé comme tel de cette draft, Quintens, le gros pari. Je ne dis pas le pivot safe, mais un pivot physique qui colle parfaitement aux besoins qui ont été identifiés par tout le monde là, après la sortie, après la finale des Spurs. Et les mecs, tranquillou bilou, bah, ils te disent, bah voilà, nous on sait très bien ce qu'on fait, normalement ça va payer. Et en tout cas, je ne sais pas s'ils sont gagnants, mais ils confirment ce truc de... Les Spurs, tu leur donnes effectivement, ils partent dans une draft, c'est toujours pareil, ils partent dans une draft avec un vieux pick 22 ou je sais pas quoi et tout, et à la fin, en général, minimum, tu les mentionnes en gagnant.
Ouais.
Voilà, ouais. Les Spurs et les drafts, quoi.
Ce sera super intéressant.
Bon, bah, on est pas tout mal.
On est
Robin,
pas tout
quelque
mal.
Chose
J'ai une dernière wildcard, si vous voulez.
Vas-y,
moi aussi.
Vas-y.
Ah bah alors, pour moi, c'est perso. Hein.
Ouais.
Je vous dis, les Kings sont contents d'avoir Ekeuf en 7, alors que franchement, au moment de la loterie, on le sait en interne, ça tirait la gueule.
Ouais, puis l'ailier là que vous rajoutez, ça se trouve, il va le faire hein, chez vous.
Si
hein.
ça se trouve, là, Alex Joaris Carabian, là, je sais pas. Mais franchement, au moment de la loterie, elle c'est dur en interne, la loterie aux Kings, tu vois, quand c'est tombé, genre on est que 7. Alors que la saison, c'était light de tank hein, quand même.
Ah bah,
on n'a pas fait semblant, tu vois.
C'est clair.
Et alors, ça rêvait d'éventuellement Boozer ou Caleb Hudson ou je sais pas quoi, mais l'objectif un peu réaliste, c'était. On est nul de manière à être au moins top 5 et donc à avoir normalement Ekeuf.
Bah oui.
Donc la loterie tombe, t'es 7. Et en fait, bon, je l'ai expliqué pendant le live et tout, mais comme les Clippers n'étaient pas censés être là, traiter avec les Pacers et tout, et ont un peu pris Wagler au fit en 5 et ça a fait glisser par le jeu des meneurs, donc les Kings sont un peu gagnants dans le sens où malgré avoir perdu à la loterie, ils ont quand même eu le joueur qu'ils voulaient.
Ouais.
Ouais, je suis d'accord.
Parfaitement. Ouais, ma wildcard, c'est un peu l'intérêt global de la NBA, j'ai envie de dire, je vais un peu préciser, c'est que on le savait, mais dans les premiers choix, Dibonsa et Peterson, t'as deux joueurs générationnels qui arrivent dans des équipes intéressantes que t'as envie de suivre dès le premier jour. Derrière, t'en parlais avec Ekeuf, mais c'est pareil avec Michael Brown, t'as certains des meneurs de jeu les plus excitants qui vont avoir directement le ballon dans les mains et tellement de munitions. Tu descends encore un peu, même dans les projets de reconstruction, t'as quand même de l'intérêt pour ce qu'on fait les Bucks. Pourquoi pas les Bulls?
Les Neo Clippers, là, on le disait, mais ouais. le bas court. Mince, Wagler-Garland, là, ouais, je l'ai regardé. Hein.
C'est ça. Avec du Dunn.
Peut-être Mathurin s'il reste. Ouais.
Le Thunder et les
Spurs. On verra ce qui se passe avec Kawhi et les arbres, mais ça, c'est un autre dossier.
Le Thunder et les Spurs, c'est des joueurs que tu as envie de voir dans ces contextes. Tu te demandes comment ça va marcher. On l'a dit, les Lakers, c'est cool. Même Yaxel, on en a parlé chez les Warriors.
Ah, beaucoup de gagnants. Hein, en fait,
ouais,
hein.
Toutes les équipes ont retrouvé de l'intérêt, enfin presque, avec cette draft en tout cas. Et j'ai l'impression qu'ils sont tombés dans des spots où la plupart vont pouvoir s'exprimer, ou alors on aura hâte de voir s'ils peuvent s'exprimer et ce qu'ils peuvent changer dans des contextes intéressants.
Ok.
C'est bien.
Petit mot sur Coapit, Alex, pour finir.
Bah écoute, je suis curieux de voir. Les Suns sont montés pour aller le chercher.
Ouais.
Donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire. L'année dernière, j'ai trouvé les choix de draft assez bons. Kaman Malouache, enfin, en tout cas des joueurs d'avenir.
Oui, très logique.
Des joueurs d'avenir. Rachir Fleming, très bonne surprise. On l'a quand même eu au deuxième tour. Hein.
C'est vrai.
Donc c'est une très bonne surprise. C'est un vrai joueur. On va voir ce qu'ils vont faire de Coapit. Parce que de toute façon, il y a des rumeurs soit du Royce O'Neal, soit du Grayson Allen. Enfin, il y a des Mark Williams. On va pas garder tout le monde la saison dernière.
Vous avez déjà
à Phoenix.
Signé Gillespie et Goodwin.
Ouais, Gillespie, Goodwin, ça c'est re-signé.
Les meneurs, quoi.
Donc je les mets ni dans les gagnants ni dans les perdants. Je suis très content. Coapit est le grand gagnant puisqu'il va jouer chez les Phoenix Suns.
Ça c'est sûr.
Non, mais la dernière fois que t'as râlé à la draft, c'était Cam Johnson, et tu vois.
Ouais.
C'est vrai,
la dernière fois que j'ai râlé, c'était Cam Johnson. Ça, c'est vrai que.
Et ça s'est plutôt très bien goupillé. Hein. Ça fait même une finale.
J'avais râlé avant, mais c'était sur Dragan Bender, c'était normal.
Oui, non, ça tu peux toujours râler.
Voilà.
On va terminer avec un immense merci à tous ceux qui nous ont suivis pendant cette soirée de la draft. Vous avez été plus de 4000 encore à plus de 4h du matin. Là, vous êtes encore 1815 à presque 6h. C'est à 6h. C'est complètement fou. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui regardent le replay aussi. On espère que ça va vous plaire et que vous en avez un petit peu appris avec nous, que vous êtes heureux des choix de votre équipe. Merci à Decathlon de nous avoir suivis.
Merci à Léonce pour le setup.
Le setup, je vais montrer une dernière fois ce magnifique tableau récap. Donc n'hésitez pas à nous dire quels sont vos gagnants, quels sont vos perdants
en commentaire. Dites-nous tout ça. La nuit la plus longue et la plus chaude de l'année s'achève un peu comme ça. Hein.
Ouais,
ça s'achève comme ça. On a vécu
un très
bon moment tous les trois.
Bonne petite draft, il y a beaucoup de joueurs que j'attends sur les parcs NBA.
Ouais. Non, merci beaucoup. Merci.
Et puis
on
vous revoit quand même assez vite là. Il y a un peu d'actu encore qui reste.
Ah bah là,
on se voit très vite
pour préparer la free agency.
Voilà, on est
là,
encore
on lâche pas le rythme. Là, ça continue encore pendant au moins deux semaines. Facile.
On va voir.
On a une free agency. Il y aura sûrement un live la semaine prochaine. On va vous tenir au courant mardi soir dans une semaine environ. Voilà.
Okay.
Robin, t'es prêt à cliquer?
Alors, je trouve pas, pour être parfaitement honnête, le bouton end. Donc, peut-être que la fin va être un petit peu brutale. Mais au moins, vous serez prévenus. On vous remercie tous d'avoir été avec nous pendant tout ce live.
Ciao.
Et on vous fait
bisous, tout
des gros bisous. Salut.
Ciao.